Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Approchons-nous tout près du Soleil pour aller visiter la plus petite planète du système solaire, c'est Mercure. Elle est visible depuis la Terre car elle a une magnitude qui peut aller jusqu'à moins 2. Mais son observation peut se révéler compliquée car elle n'est jamais loin du Soleil. On dit que son élongation, l'angle apparent maximal entre Mercure et le Soleil, est faible. En effet, elle est de 28 degrés. Ça veut dire que Mercure apparaîtra toujours à moins de 30 degrés du Soleil, donc souvent noyée dans la luminosité du Soleil. De plus, comme la Lune et Vénus, Mercure présente des phases vues depuis la Terre. Elle est dite nouvelle à la conjonction inférieure, c'est-à-dire quand Mercure est entre le Soleil et la Terre, et pleine à la conjonction supérieure, quand c'est le Soleil qui est entre Mercure et la Terre. Cependant, la planète est rendue invisible depuis la Terre à ces deux occasions, parce qu'elle est obscurcie par le Soleil. Sauf éventuellement à l'occasion d'un transit, mais ça je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Le meilleur moment pour observer Mercure est ainsi pendant son premier quart ou son dernier quart, bien qu'il s'agisse de phases de moindre luminosité. Le premier et le dernier quart se produisent lors de l'élongation la plus importante, c'est-à-dire que si on imagine la Terre et le Soleil alignés, Mercure est situé soit à droite, soit à gauche du Soleil. L'élongation la plus importante à l'est a lieu vers septembre-octobre et vers l'ouest en mars-avril. À ces deux moments-là, la séparation de Mercure et du Soleil varie entre 20 degrés au périhélie et 27 degrés à l'aphélie. Mercure est plus facilement visible dans les régions tropicales et subtropicales que dans les latitudes plus élevées. Vu des basses latitudes et au bon moment de l'année, l'écliptique coupe l'horizon à un angle assez aigu. Et à ce moment-là, Mercure se trouve directement au-dessus du Soleil. Son orbite semble verticale depuis la Terre. Quand arrive le moment de la journée où le Soleil est à 18 degrés en dessous de l'horizon, Mercure, qui est à ce moment-là à 28 degrés du Soleil, se trouve 10 degrés au-dessus de l'horizon, dans un ciel complètement sombre. Elle est alors à son maximum de visibilité pour un observateur terrestre. Une autre méthode pour observer Mercure consiste à observer la planète pendant les heures du jour, lorsque les conditions sont claires, idéalement lorsqu'elle est à son plus grand allongement. Ça permet de trouver facilement la planète, même en utilisant un télescope à faible ouverture. Attention cependant, si vous utilisez un télescope de jour, ne le pointez pas directement vers le Soleil, vous risquez de vous abîmer les yeux. D'une façon générale, les observations de Mercure grâce à un télescope ne révèlent pas grand-chose, si ce n'est un disque partiel de couleur orange. Il y a peu de détails. La proximité de l'horizon rend l'observation difficile parce qu'il y a beaucoup de turbulences dans l'atmosphère. Même avec des télescopes puissants, il n'y a pratiquement pas de caractéristiques distinctives à sa surface. Même le télescope spatial Hubble ne peut pas du tout observer Mercure, parce qu'il y a des sécurités qui l'empêchent de pointer trop près du Soleil. Mercure est une planète tellurique, comme le sont également Vénus, la Terre et Mars. Elle est près de 3 fois plus petite et presque 20 fois moins massive que la Terre. Mais elle est presque aussi dense qu'elle. La densité remarquable de Mercure, dépassée seulement par celle de la Terre, est due à l'importance de son noyau métallique, qui représenterait 85% de son rayon, contre environ 55% pour la Terre. Mercure tourne sur elle-même très lentement. Elle met 59 jours à faire une rotation complète, alors qu'elle met 88 jours à faire le tour du Soleil. Il se trouve qu'elle est donc en résonance spin-orbite, c'est-à-dire que relativement aux étoiles fixes, elle tourne sur son axe exactement 3 fois toutes les 2 révolutions autour du Soleil. Elle a aussi une orbite tout à fait particulière. C'est une ellipse assez allongée, qui n'est pas centrée sur le Soleil. Ainsi, Mercure peut être au plus près du Soleil à 46 millions de kilomètres ou au plus loin à 70 millions de kilomètres. On dit que son excentricité orbitale est de 0,2. L'excentricité orbitale, c'est le rapport entre la trajectoire d'un objet céleste et un cercle parfait. Une excentricité vaut 0 quand la trajectoire est parfaitement circulaire, comme celle de Vénus par exemple. Entre 0 et 1, les trajectoires sont des ellipses. Et au-dessus de 1, on n'a plus vraiment affaire à des trajectoires périodiques. On appelle ça des orbites d'échappement, c'est-à-dire que l'objet céleste ne reviendra pas au même endroit. C'est Johannes Kepler qui, le premier, a conçu que les planètes du système solaire avaient des trajectoires elliptiques, et donc une excentricité. Cette variation de distance par rapport au Soleil fait que la surface de Mercure est soumise à une force des marées exercée par le Soleil, environ 17 fois plus forte que celle qu'exerce la Lune sur la Terre. Au moment où Mercure passe le plus près du Soleil, au périhélie, il se passe un phénomène bien étrange. En effet, pendant 4 jours terrestres, la vitesse orbitale de Mercure est égale à la vitesse de rotation, de sorte que le mouvement apparent du Soleil cesse. Au moment du périhélie, la vitesse orbitale angulaire de Mercure dépasse la vitesse de rotation. Alors, pour l'observateur, un observateur hypothétique sur Mercure, le Soleil semble se déplacer dans une direction rétrograde. Et puis, 4 jours terrestres plus tard, après le périhélie, le mouvement apparent normal du Soleil reprend et il se neve à nouveau à l'est pour se coucher à l'ouest. En fonction de l'endroit où un hypothétique observateur se trouve, voilà ce qu'il pourrait voir. S'il est sur l'équateur, le Soleil se lève à l'est, il monte dans le ciel, puis, un peu après être passé au-dessus de l'observateur, il semble s'arrêter. Puis il va repartir dans l'autre sens, vers l'est, il va s'arrêter à nouveau, et puis repartir vers l'ouest et se coucher vers l'ouest. Il faut bien comprendre que ça se passe sur un temps relativement long, puisqu'un jour, c'est 88 jours terriens. L'effet global est que pendant 2 à 3 semaines, le Soleil est presque stationnaire au-dessus d'un point, qui est à son plus haut niveau de brillance, parce que Mercure est au plus près du Soleil. Cette exposition prolongée, au moment de la planète où est au plus proche du Soleil, rend certaines zones de Mercure très chaudes, jusqu'à 400 degrés. La planète Mercure doit son nom au messager des dieux dans la mythologie romaine, Mercure, qui est équivalent à Hermès dans la mythologie grecque. La planète est ainsi nommée par les Romains à cause de la vitesse avec laquelle elle se déplace dans le ciel. Le symbole astronomique de Mercure, c'est un cercle posé sur une croix portant un demi-cercle en forme de corne. Il s'agit de la représentation du caducée du dieu Hermès. Mercure a également donné son nom au troisième jour de la semaine, le mercredi, Mercuri dies. Mercure est connu depuis que les hommes s'intéressent au ciel nocturne. La première civilisation à avoir laissé trace écrite de son observation est la civilisation sumérienne, au troisième millénaire avant Jésus-Christ. On l'a nommée alors Ubu-Idim-Goud-Oud, ce qui signifie la planète sautante. Les premiers écrits d'observation détaillée de Mercure nous viennent des Babyloniens, avec les tablettes Mul-Apin. Les Babyloniens appellent cet astre Nabu, en référence au dieu du savoir de la mythologie mésopotamienne. Ils sont également les premiers à avoir étudié le mouvement apparent de Mercure, qui est différent de celui des autres planètes. Plus tard dans l'Antiquité, les Grecs, qui sont héritiers des conceptions indo-européennes de paléoastronomie, considèrent, jusqu'à à peu près le 5e siècle avant Jésus-Christ, que Mercure visible avant le lever du soleil d'une part et Mercure visible après le coucher du soleil d'autre part, étaient en fait deux astres distincts. Ceux-ci sont appelés Stilbon, signifiant celui qui brille, et Hermès, en raison de son mouvement rapide. Ce dernier est d'ailleurs toujours le nom de la planète, en grec moderne. Et le H est resté l'initiale de la planète Mercure, pour éviter de la confondre avec Mars, qui elle a la lettre M. L'étoile du matin aurait été aussi appelée Apollon. Les Égyptiens procédèrent de même en donnant le nom de Seth à l'étoile du matin et d'Horus à celle du soir. Les Romains, eux, nommèrent la planète du nom du messager des dieux, Mercure, en latin Mercurius, parce qu'elle se déplace dans le ciel plus vite que toutes les autres. Dans la civilisation maya, on aurait représenté Mercure comme un hibou, ou potentiellement 4 hiboux, 2 représentant son apparition du matin, 2 représentant son apparition du soir, qui servaient de messager vers le monde souterrain. L'astronome gréco-égyptien Ptolémée évoque la possibilité de transit planétaire devant le Soleil dans son ouvrage « Hypothèse planétaire ». Un transit de Mercure se produit lorsque la planète Mercure se situe entre l'observateur et le Soleil. Elle est alors visible sous la forme d'un petit point qui traverse le disque solaire. Il suggère que si aucun passage n'est jamais observé, c'est soit parce que des planètes telles que Mercure sont trop petites pour être vues, soit parce que les passages sont trop peu fréquents. Johannes Kepler, en travaillant sur les lois des mouvements elliptiques des planètes, va prédire en 1627 un transit de Mercure devant le Soleil. Ce transit va être observé par Pierre Gassendi avec seulement 5 heures d'écart avec la précision de Kepler, qui malheureusement est mort un an avant et ne pourra avoir la confirmation de ses travaux. En Inde, l'astronome Nilakanta Somayaji de l'école du Kerala développa au 15e siècle un modèle partiellement hélocentrique dans lequel Mercure orbite autour du Soleil et qui à son tour orbite autour de la Terre, un petit peu comme le modèle ticonique de Tycho Brahe proposé au 16e siècle en Europe. En 1661, une observation prolongée a été faite par Johann Hevelius. Il a publié une description détaillée avec le calcul de la taille angulaire de Mercure. Les données recueillies sur les transits de Mercure entre 1676 et 1881 ont permis à Simon Newcombe de déterminer précisément l'avance du périhélie de Mercure, ce qui fournira en 1915 le premier test expérimental de la relativité générale. Comme pour l'ensemble des planètes du système solaire, l'orbite de Mercure connaît une très lente précession du périhélie autour du Soleil. C'est-à-dire que son orbite, l'ellipse, est elle-même en rotation autour du Soleil. Un petit peu comme ce qu'on peut observer quand on trace un spirographe. Cependant, contrairement aux autres planètes, la période de précession du périhélie de Mercure ne concorde pas avec la prédiction faite à l'aide de la mécanique newtonienne. En effet, Mercure connaît une précession légèrement plus rapide que celle à laquelle on peut s'attendre en appliquant les lois de la mécanique céleste. Elle se trouve en avance de 43 secondes d'arc par siècle. Alors ça peut paraître très faible et négligeable, mais vous allez voir que cette petite avance a de grandes conséquences. Les astronomes ont, dans un premier temps, pensé à la présence d'un ou plusieurs corps entre le Soleil et l'orbite de Mercure, dont l'interaction gravitationnelle perturberait le mouvement de cette dernière. L'astronome français Urbain Le Verrier, qui avait découvert en 1846 la planète Neptune à partir d'anomalies de l'orbite d'Uranus, se pencha sur le problème et suggéra la présence d'une planète inconnue ou d'une seconde ceinture d'astéroïdes entre le Soleil et Mercure. Il croit l'avoir trouvée en observant un point noir sur la surface du Soleil et l'appelle Vulcain. Malheureusement, il ne pourra jamais la retrouver ensuite. Il est possible qu'il ait observé une tache solaire. Il faut attendre 1916 et la théorie de la relativité générale d'Einstein pour obtenir une explication. Einstein fournit l'explication de la précession observée en formalisant la gravitation comme étant affectée par la courbure de l'espace-temps. Alors je vous épargne les explications détaillées et les équations, mais Einstein a trouvé la valeur de 43 secondes d'arc par siècle, ce qui est quand même extrêmement proche de l'observation.